Écoutez.
Bonjour Marie Favre.
Bonjour Michel.
J'avouais tout à l'heure mon incompétence à comprendre exactement quel serait aujourd'hui le thème de l'émission, apparemment passionnant, mais on va plonger au cœur du sujet avec votre invité. Bonjour Jean-Marc Tétat.
Bonjour.
Vous êtes théologien, vous n'êtes pas musicologue, vous m'avez bien précisé que vous étiez
Absolument. Théologien
et philosophe, mais
Exactement. Pas
musicologue, mais vous avez pour le phénomène musical un profond intérêt.
C'est le cas, effectivement.
On peut le dire comme ça.
Absolument.
Hein. Et alors, voilà, nous sommes ensemble ce matin pour parler de la Kunstreligion, la religion de l'art. Marie Favre, qu'est-ce que c'est ?
Ah bah c'est justement pour comprendre ce que c'est que nous sommes là, Michel. La religion de l'art, c'est un concept philosophique, esthétique, qui est apparu fin 18e, début 19e, et dont on va creuser les fondements et les enjeux avec Jean-Marc. Mais avant peut-être, et peut-être pour justement commencer par la musique, je vous propose d'écouter quelque chose, avant même de vous laisser la parole, Jean-Marc, d'écouter quelque chose d'étonnant. C'est un extrait de la Passion selon saint Matthieu de Bach, mais dans une version où vous allez entendre des clarinettes.
C'est douloureux de se séparer de cette voix, d'ailleurs magnifique. Un extrait de la Saint-Matthieu, donc de Jean-Sébastien Bach, dont vous nous disiez, Marie Favre, que c'était une version un peu particulière.
Bah oui, à la place des deux hautbois qui normalement font la ligne de basse, oui. Il y avait des clarinettes. C'est vous qui avez insisté pour cette version, Jean-Marc.
Oui, parce que c'est la version réorchestrée par Mendelssohn pour la première exécution moderne de la Saint-Matthieu, qui a lieu en 1829 à Berlin. En présence de Schleiermacher, de Hegel et de toute ce qu'on peut appeler l'intelligentsia berlinoise de l'époque. Et cette exécution, ce qui eût été complètement inconcevable pour Bach, n'avait pas lieu dans une église, mais dans une salle de concert. Et le passage de l'exécution de la Saint-Matthieu en église à l'exécution de la Saint-Matthieu en salle de concert, à laquelle nous sommes aujourd'hui passablement habitués, est compréhensible uniquement, justement, dans le cadre de cette religion de l'art. Et on peut considérer que la redécouverte de Bach au XIXe siècle, Mendelssohn était suivi par Schumann, qui a réorchestré sur les mêmes principes à Saint-Jean, aussi avec clarinette, et bien que cette redécouverte de Bach s'inscrit dans ce mouvement qui, à ce moment-là, est typiquement protestant, de la religion de l'art.
Alors justement, cette religion de l'art, quel fondement elle a ? Sur quoi elle s'appuie ?
Alors écoutez, elle s'appuie, je pense, sur une tradition assez typique du protestantisme, qu'on appelle le piétisme, qui est un mouvement allemand qui naît au XVIIe siècle, et qui met l'accent sur la dimension subjective de la vie de la foi. La vie de la foi est avant tout une affaire de religiosité, c'est du reste dans ce cadre-là qu'apparaît le mot. Le mot est un mot du XVIIIe siècle en allemand. Et dans ce cadre-là, donc, on insiste de plus en plus sur le vécu subjectif et sur l'exigence d'authenticité de ce vécu. Et si l'on dit les choses comme ça, on se rend bien compte qu'il y a, de façon quasiment structurelle, fondamentale, une parenté entre cette exigence d'authenticité du vécu subjectif et un trait que l'on peut estimer toutes ces caractéristiques de l'art moderne tel qu'il se constitue à la seconde moitié du 8e siècle, grosso modo, qui est également une exigence d'authenticité. Et ça se retrouve jusqu'aujourd'hui, quand vous demandez à Habermas ce qu'est l'art, sa valeur fondamentale, il vous répondra l'authenticité. Bien. Donc, il y a là une continuité. Cette exigence d'authenticité demande que l'expression de la vie subjective soit véridique. C'est ça l'enjeu. Et l'exigence de véracité se retrouve dans les critères esthétiques portés sur la musique. Du coup, l'art, et en particulier la musique, on reviendra dessus sur sa question dans un instant, l'art devient le vecteur privilégié de l'expression de la religion. Et, conséquence de cela, la religion n'a plus son lieu exclusif ou premier dans le bâtiment qu'est une église, mais se diffuse dans la culture de façon très large.
Est-ce que ça tient à la découverte de l'individu, c'est-à-dire de cet individu détaché de sa structure, familiale, sociale? On devient un individu et la spiritualité finalement est propre à l'individu.
Alors il y a effectivement quelque chose qui relève de cela, de cet individualisme et d'un élément essentiel de l'individualisme moderne, parce que il y a beaucoup de formes d'individualisme, comme les anthropologues nous l'apprennent, l'individualisme moderne qui pose une exigence de véracité, de vérité. Seul ce que je considère comme vrai est vrai. Seul ce que je considère comme beau est beau. Donc cette exigence de donner raison de ce que l'on considère comme vrai, comme beau, fait de la véracité ou de l'authenticité, le noyau fondamental de l'individualisme. Mmh. Et c'est ce noyau fondamental de l'individualisme qui s'avère être, dans la réflexion de l'époque, ce qui est le propre de la religion. Donc la religion devient effectivement, au tournant du 18e, 19e siècle, une religion de l'individu. Et cette religion de l'individu trouve son expression dans les formes artistiques. À cela, on peut encore ajouter un autre élément qui est important. Avec Kant, de façon très marquée, l'esthétique intègre la religion, la réflexion, excusez-moi, sur le sublime. Or, qu'est-ce que le sublime tel que le définit Kant? C'est la disproportion. Donc, l'expérience conjointe d'un anéantissement et d'une élévation. Or, en protestantisme, et spécialement en protestantisme luthérien, et l'Allemagne est à 95%, quand elle est protestante, elle est luthérienne. En protestantisme luthérien, l'élément fondamental de la foi, c'est l'expérience à la fois de la condamnation et de la grâce par Dieu. D'accord ? Donc vous avez une analogie très forte entre l'expérience esthétique du sublime et l'expérience religieuse de Dieu. Ce qui permet de trouver dans l'expérience esthétique du sublime la façon dont l'expérience de Dieu peut s'exprimer. D'où cette propension que le protestantisme dès le XVIIIe portera sur la musique, mais une musique qui n'est plus, comme à l'époque de Bach, une musique d'abord liturgique, mais une musique qui est une musique du concert. C'est tout à fait typique que les grandes œuvres chorales, religieuses, qu'elles soient de Mendelssohn, de Schumann ou d'autres, sont des œuvres destinées à la salle de concert et non pas à l'église. Ni le Paulus, ni le Elias de Mendelssohn ne sont des œuvres destinées à l'église. Pas davantage que les oratorios de Schumann.
Je voulais dire, si j'essaie de vous paraphraser pour voir si je saisis bien votre propos, ça veut dire que quand on va au concert et qu'on vit une expérience esthétique du sublime, c'est une façon, par métaphore ou par analogie, de vivre une expérience religieuse. Comment on se sentirait à la fois petit et grand aux yeux d'un dieu.
Exactement. C'est l'expérience religieuse devient, l'expérience musicale devient le médium de l'expérience religieuse. Mm-hmm. L'expérience religieuse trouve à se réaliser par le biais de la musique. Mais notez bien que ça peut aussi l'être, mais je suis moins compétent pour en parler, dans l'expérience picturale, mm-hmm. ou dans l'expérience, littéraire.
Poétique,
Il y a au 19e, début 20e, par exemple, une adoration de la Madone Sixtine qui se trouve à Dresde. Les protestants en raffolent. Ils vont quasiment en pèlerinage admirer la Madone Sixtine à Dresde.
Ce qui est assez paradoxal.
C'est assez paradoxal, mais je pourrais vous trouver une dizaine de textes là-dessus. Mmh. Mais vous avez aussi, c'est une chose qu'on sait trop peu, Schleiermacher, le grand théologien et philosophe, était aussi responsable un certain temps, chef de service, si vous voulez, au ministère des cultes, donc de l'école. Et dans ce cadre-là, il a organisé une grande exposition d'art à laquelle étaient exposés à Berlin les deux célèbres tableaux de Friedrich, le moine au bord de la mer et le cimetière dans la neige, qui sont des tableaux qui ont marqué les esprits. Brentano, Kleist en parlent dans leurs textes, qui ont passionné le prince héritier, qui les avait achetés par son père, c'est pour ça qu'ils sont encore à Berlin aujourd'hui, et dans lequel s'exprimait aussi cette dimension du sublime, cette dimension profondément religieuse. Donc on a vraiment une prise en charge de l'art par la religion à ce moment-là.
Et vous m'avez aussi mentionné un mot qui pour moi est barbare à mes oreilles, l'âne d'art, la notion d'âne d'art.
Oui, alors ça c'est quelque chose d'absolument caractéristique parce que cela désigne l'attitude subjective aussi bien de la personne qui participe au culte dominical que de la personne qui va au concert. L'âne d'art, c'est l'attitude de recueillement. Et on est recueilli, donc silencieux et concentré, aussi bien au culte, si possible, qu'au concert. Il a d'ailleurs caractéristique que Schleiermacher, qui était un immense prédicateur, ait commencé toutes ses prédications par la formule « Meine andächtigen Freunde », donc « mes amis recueillis ». C'est de cette façon-là que le pasteur s'adressait à ses paroissiens, parmi lesquels il y avait la cour, d'ailleurs, de Berlin. Donc, vous avez ce moment de l'andacht, du recueillement, qui est l'attitude subjective correspondant à l'expérience du sublime. Et qui caractérise encore une fois jusqu'à aujourd'hui, en définitive, le concert. Le concert est probablement, le concert classique, j'entends, est probablement le seul moment où la pratique de l'andacht, du recueillement, est encore une pratique relativement partagée socialement.
Du recueillement. Vous appelez cela nécessairement du recueillement. Ça peut être une concentration.
Oui, mais c'est une concentration qui est à la fois silencieuse.
Du respect, enfin, nécessairement, parce que tout le monde parle, la musique empathie un peu.
Soyons attentifs au sens précis du mot recueillement. Il y a le mot cueillir dedans et le préfixe re. Donc, on se rassemble pour se concentrer sur ce qui se passe et sur la façon dont on le ressent. L'effet que ça me fait, pour le dire. Et c'est ça le sens du mot recueillement. C'est cette manière de se concentrer au lieu de se disperser dans 36 choses qui vous font penser à tout et à rien. Vous vous recueillez, vous concentrez votre attention sur ce que vous écoutez et du coup, vous ressentez quelque chose que vous ne ressentiriez pas si vous laissiez vos pensées divaguer.
Le cours magistral, par exemple, étant un autre exemple de...
Oui, mais je vous promets...
De situation de recueillement.
Pour avoir donné des cours magistraux, il est rare que les étudiants soient très recueillis.
Soit à ce point recueillis. Bon, dommage.
On pourrait voir si les auditeurs sont recueillis. Je propose un moment d'âne d'art. On pourrait écouter un fragment d'une œuvre très connue, la 5e symphonie de Beethoven, parce que vous m'avez dit à plusieurs reprises, quand on a préparé cette émission, que Beethoven était un personnage important dans cette élaboration de la...
Absolument. Juste un mot peut-être, ce qui est caractéristique de la réception de Beethoven, c'est que l'on trouve dans les contrastes tellement marqués des œuvres de Beethoven et dans cette espèce d'apothéose de la musique absolue, donc une musique qui n'est plus portée par des mots, mais dont la cohérence est uniquement due à des structures formelles musicales, on trouve dans cette musique absolue, une expérience de l'absolu, donc une expérience religieuse. Et c'est le succès phénoménal de Beethoven dans la classe montante de l'époque, la bourgeoisie, s'explique en partie par cela.
Alors on l'écoute.
Thank you.
Extrait de la cinquième symphonie, donc de, on a entendu le destin qui aura pas l'importance. Poser la question, mais bien sûr, Beethoven, donc, dans ce troisième mouvement dirigé par Haitink. Marie-Fa.
Oui, j'étais encore dans Beethoven.
Oui, bon, j'imagine.
Vous m'avez expliqué, Jean-Marc, donc là je crois qu'on a assez bien compris la naissance sur les bases du mouvement piétiste, de ce glissement de la religion en religiosité. Alors comment ce mouvement évolue au cours du 19e siècle ?
Alors ce qui est assez caractéristique, c'est qu'on pourrait dire qu'autour de 1830-1840, on assiste à une sorte d'inversion. Alors que jusqu'à ce moment-là, la religion trouvait un appui et un mode d'expression dans la musique. Autour de 1830-1840, la musique devient en quelque sorte la façon dont véritablement la religion existe, est présente, du moins chez certains musiciens. Et il me semble que la figure la plus caractéristique de cela est Richard Wagner. Richard Wagner, on l'oublie parfois un peu trop, est naturellement né dans une famille luthérienne. Il a fait son catéchisme luthérien à Leipzig, qui était une ville extrêmement traditionnelle d'un point de vue théologique à l'époque où Wagner y faisait ses classes. Le catéchisme à l'époque se faisait à l'école, donc on n'y échappait pas. Voilà, avec des manuels tout à fait traditionnels. Et il développe, dans le courant des années 1840, une conception dans laquelle la musique devient le médium par excellence d'une sorte de reconstitution, de réintégration de la communauté. La communauté, évidemment, conçue d'abord comme une communauté politique. C'est un phénomène tout à fait intéressant. Pourquoi ? Parce que une des fonctions les plus traditionnelles de la religion a toujours été de servir de ferment intégrateur à une communauté. Pourquoi ? Parce que la religion a entre autres pour fonction de permettre à chaque individu d'intégrer les valeurs communes, ce qui évite de devoir mettre un policier derrière chacun pour éviter que la personne ne transgresse les règles. Bien. Et on se rend bien compte que si on devait en arriver là, la vie sociale deviendrait un peu difficile. Or, cette fonction de la religion, à mesure que la religion s'individualise, elle semble la perdre parce que chacun intègre ses propres valeurs. Donc, on essaye de trouver une forme objective dans laquelle pourrait se reconstituer un cosmos de valeurs partagées et une forme dans laquelle les individus pourraient participer à ces valeurs. Parce que c'est clair que ce n'est pas dans des cours que vous allez convaincre les gens de vivre conformément à ces valeurs. D'accord ? Et c'est la fonction fondamentale de ce que Wagner appelle le drame musical. Le drame musical doit être la forme de la réintégration sociale d'une société dont Wagner, qui a été très copain de Bakounine, comme nous le savons, et qui a participé à la révolution de Dresde, qui a été du reste exilé après cela, qui s'est réfugié en Suisse, à Zurich, comme toutes les personnes d'ailleurs qui participent à la révolution de Dresde. Il y avait aussi Zemper, qui est l'architecte qui a construit le bâtiment de la copie technique à Zurich. Il était réfugié pour les mêmes raisons à Zurich et il y en avait bien d'autres. Donc tous ces libéraux de gauche, ces gauchistes, pourrait-on dire, de l'époque, se retrouvaient à Zurich. Mais le gauchisme spécifique de Wagner consistait à rêver d'un renouveau de la communauté qui dépasserait les divisions sociales, les classes sociales. C'est en ce sens-là que c'était une forme de gauchiste qu'on pourrait appeler pré-communiste et qui était très ami de Bakounine. Et cette vision d'une société sans classe, si j'ose dire ça dans ces termes, a d'ailleurs trouvé sa réalisation architecturale. Wagner, on le sait tous, rêvait d'avoir son propre théâtre, qui devait être autant un temple qu'un théâtre, pour y donner le Ring, l'anneau du Nibelung. Et ce théâtre devait être conçu sur le modèle du théâtre grec, donc la tragédie grecque antique, qui, comme vous le savez, a un espace pour les spectateurs, on appelle ça une cavea, qui n'est pas séparé en balcons successifs. Alors que pour Wagner, le théâtre à l'italienne que nous connaissons, le théâtre d'opéra classique avec ses balcons qui montent de plus en plus haut, et plus vous êtes pauvre, plus vous êtes en haut, tout en haut c'est les places debout aveugles.
Poulailler.
Voilà, qui coûtait à l'époque 4 marques, j'ai fait tout le ring comme ça à Munich. Et en bas vous avez la loge royale. Bien. Donc vous avez la reproduction de la stratification sociale dans l'élévation architecturale. Le théâtre de Bayreuth a une seule grande KVA dans laquelle les spectateurs sont assis et qui devait avoir une fonction de négation de cette stratification sociale. Donc, c'est une idée fondamentale de cela. La charge religieuse de cette conception, on la remarque si on est attentif à une chose que trop peu de monde connaît ici, à savoir que Wagner a été amené, pendant sa période de chef de l'opéra à Dresde, a composé une œuvre pour la fête allemande. À l'époque, je vous rappelle qu'il n'y avait pas d'empire allemand. L'Allemagne n'existait que sous forme d'État indépendant. Et donc, la culture était l'une des formes d'affirmation de l'identité nationale contre la division politique. Et il y avait, entre autres, une fête des chœurs d'hommes de toute l'Allemagne qui devait se donner à Dresde et pour laquelle Wagner a composé une œuvre. Cette œuvre, très peu connue, s'appelle Das Liebesmahl der Apostel, donc le repas d'amour, pourrait-on dire, des apôtres, est un oratorio de Pentecôte qui a été écrit pour être donné à un lieu très précis, encore une fois cette importance de l'architecture dans la musique de Wagner, c'était la Frauenkirche à Dresde. La Frauenkirche est une église baroque protestante qui a comme architecture une superposition de tribunes, afin de pouvoir mettre plus de monde sur moins de surface en mètres carrés au sol. Wagner a disposé les centaines, il y en a plusieurs centaines vraiment, d'hommes de ses chœurs dans les différentes tribunes étagées de la Frauenkirche, et c'est ce modèle qu'il reprendra pour les célèbres chœurs de Parsifal. Le modèle fondamental de l'espace scénique de Parsifal dans les scènes chorales à la deuxième tableau du premier et du troisième acte sont la Frauenkirche de Dresde et le modèle des chœurs de Parsifal et de Tannhäuser d'ailleurs sont les chœurs du Liebesmahl der Apostel.
Donc on voit bien qu'en fait l'espace scénique profane, enfin à nos yeux profanes du théâtre, reproduit en fait l'espace liturgique de l'église.
Absolument.
Donc le glissement est vraiment total.
Le glissement est total. L'espace liturgique de l'église baroque protestante, encore une fois, ce qui implique que vous êtes tout autour. Hein. Il n'y a pas un chœur réservé aux prêtres et une partie réservée au peuple de l'église. L'espace circulaire de la Frauenkirche, c'est l'église de plan circulaire, étagé verticalement, devient l'espace scénique représenté dans Parsifal.
Le seul détail étant que le grand gourou, enfin, ou le grand dieu, devient un homme de chair et d'os à chaque fois, à savoir Richard Wagner. C'est peut-être là que se pose la question et le problème.
Je ne dirais pas que c'est le grand dieu, c'est le prophète.
Grand gourou.
C'est le prophète. il prend la posture du prophète, de celui qui proclame un message de salut. Il y a vraiment une dimension de salut. Et ça se retrouve dans tous les opéras de Wagner, sans exception. De la grande période, j'entends, à partir du vaisseau fantôme, vous avez une dimension de rédemption qui est présente. Cette rédemption par l'art devient un thème dominant aussi bien dans Tannhäuser que dans les maîtres chanteurs, que évidemment dans Parsifal.
Ce qui va désespérer Nietzsche,
absolument.
Quand il va découvrir effectivement cette terrifiante supercherie à ses yeux.
Absolument.
On écoute un extrait de ce Liebesmahl der Apostel.
Oui, absolument.
Alors on l'écoute.
Oh, yeah.
D'accord.
New York. On a entendu New York.
Juste New York.
Je ne sais pas pourquoi Marie-Fab nous parlait de New York alors que nous écoutions ce troisième chœur des Liebesmahl der Apostel de Richard Wagner. Comme vous dites bien, Jean-Marc Tétard, moi je le dis moins bien. Oui, New York, pourquoi New York?
Parce que c'était le chœur du Metropolitan Opera qui chantait c'est ici, cela. Sous la baguette de James Levine.
Bonne version.
Écoutez, oui, je ne la connaissais pas, mais elle me paraît tout à fait...
Vous qui l'avez chantée à Göttingen.
Exactement, moi qui l'ai chantée il y a fort longtemps à Göttingen. Mais j'avoue que c'est rarissime que l'on donne cette œuvre, c'est dommage. Oui. Parce que c'est une œuvre, c'est probablement la seule œuvre de Wagner qui est accessible à des profanes. Elle n'a pas été écrite pour des professionnels. Mm-hmm. Il faut 12 bonnes voix d'hommes pour les 12 apôtres, mais le reste est accessible à des chœurs profanes et il y a une tradition de chœurs d'hommes dans le canton qui permettrait de donner ça de temps en temps. Bien, mais c'est un autre problème.
Oui, bah cette œuvre, donc c'est le repas de la Pente, enfin c'est le repas des apôtres à la Pentecôte. Il y a le mot lib dedans, le repas d'amour des apôtres. Pourquoi ce titre?
Alors c'est, je pense, très caractéristique d'une des formes de transformation que prend le christianisme protestant dans l'Allemagne du XIXe siècle. Vous avez une discussion philosophique à l'orée du XIXe siècle, fin du XVIIIe, qui se demande quelle est la véritable forme de communauté humaine. Kant avait proposé le thème de la république morale, donc une communauté dans laquelle chacun agirait conformément à la loi morale, non pas par crainte du policier, comme je disais tout à l'heure, mais par respect pour la loi. Mais cette version très légaliste de la morale ne convainc pas. Et la génération suivante propose une différence entre la communauté civile et la communauté religieuse et conçoit la communauté religieuse comme une communauté qui est une communauté d'amour, fondée donc sur l'amour. L'amour comme véritable communion entre les individus. Et donc la réalisation de la vie sociale humaine devrait trouver sa forme sociale dans l'Église comprise comme communauté d'amour. Et dès l'instant où la Pentecôte est évidemment traditionnellement la fête de la fondation de l'Église, il apparaît cohérent de comprendre cette fête comme un repas d'amour. Un repas dans lequel l'amour est célébré et est vécu. On voit là apparaître une thématique absolument essentiel, qui rejoint ce que je disais tout à l'heure à propos de la problématique de l'intégration des valeurs. C'est la tentative, il faut bien le dire, désespérée, de dépasser les tensions, les scissions, les divisions de la société moderne dans une communauté totalement utopique de l'amour. Une communauté non politique, post-politique, pourrait-on dire. Il est évident que ça ne fonctionne pas. Il est évident que tous ces programmes sur lesquels débouche la religion de l'art sont des programmes utopiques et promis à la catastrophe, à l'échec le plus total. Et c'est intéressant parce que ça montre dans quelle mesure les choses continuent à évoluer et la question subsiste, même si les réponses apparaissent illusoires. La question de savoir ce qui peut intégrer une société contemporaine du moment que la religion ne peut plus le faire et que manifestement l'art, malgré toutes les tentatives wagnériennes et autres, n'y parvient pas davantage, sera la question fondamentale qui donnera naissance à la discipline que nous connaissons tous aujourd'hui de la sociologie. Aussi bien Tönnies en Allemagne, une génération avant les classiques que nous connaissons combien aujourd'hui, que Durkheim ou Weber, sont habités par cette question.
Est-ce qu'on peut dire que, j'extrapole un petit peu, hein, Marie-Farm, mais est-ce qu'on peut dire que Woodstock, l'île de Wight, sont des continuations de cette volonté de la religion de l'art, de cette tentative de la religion de l'art et d'une religion de l'amour?
Oui, absolument. On peut dire que c'est les formes que cela a pu prendre à la fin du XXe siècle, mm-hmm. Qui ont également été porteuses d'un espoir utopique, et qui n'ont pas davantage réussi que le drame musical
que Wagner. Oui. Marie Favre.
Je propose que pour nous quitter, on écoute quelques notes du dernier chœur de Parsifal, puisque vous l'évoquiez. Ça nous permettra d'entendre les parentés évidentes d'écriture qu'il y a avec le chœur du Liebesmahl der Apostel qu'on écoutait tout à l'heure.
Donc on ne reviendra pas, on va écouter ce chœur de Parsifal en vous remerciant.
En remerciant surtout Jean-Marc Tétat, merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci de m'avoir accueilli et donné l'occasion d'aborder ces thèmes tout à fait passionnants.
Alors absolument passionnants, il faudrait en faire 4 émissions à peu près, au minimum. Parce que là, on a fait le tour, on a survolé rapidement. Donc il faudra revenir, Jean-Marc Tétat,
bien volontiers.
Nous parler de tout cela. On écoute ce chœur final de Parsifal. Merci Marie Favre. Voilà, c'était le cœur final de Parsifal, la conclusion de cet opéra de Richard Wagner. Je n'ai pas la... Mais Marie Favre est toujours là, donc elle va nous dire qui interprétait tout cela, si elle s'en souvient.
Eh bien, si ma mémoire est bonne, c'est à nouveau le chœur et l'orchestre du Metropolitan Opera.
Parfait. On va rafraîchir tout ça, on va alléger, si vous voulez, avec un petit menuet. Deux petits menuets, d'ailleurs, associés. Extrait de la sonate pour violon et piano numéro 2.